entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis, s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà.
Le gaz des gazières!
Des blagues.
Du boucan.
Des lectures.
Du chant.
Des coups de gueule.
Des interviews.
Des recettes.
Tous les premiers mercredis du mois, de 20h à 22h.
Le gang des gazières.
On mixe les cow-boys. Mais c'est pas une émission culinaire.
Et c'est sur Radio Galère.
Ah ben, je voulais dire que c'était sur Radio Galère, mais le générique le dit, j'avais complètement zappé. Pourtant, ça fait bien 7 ans qu'on a le même. Mais bon, voilà. Et ben, bonsoir, vous écoutez le Gang des Gazières, du coup, sur Radio Galère. Et parfois, quand on prend le temps de le mettre, de le poster sur radiorageuse.net. Voilà. Ce soir, on va écouter l'enregistrement d'une soirée lecture autour des maladies chroniques, du handicap et du validisme qui s'est déroulée à la librairie Transit au 51 boulevard de la Libération, à Marseille donc, fin février. Avant, vous aurez droit à une petite présentation, un agenda, de la musique. Voilà, dans un peu moins d'une demi-heure, il y aura cet enregistrement. On commence donc par la petite présentation.
Oui, bonsoir. Alors, juste, on a organisé donc une soirée lecture à Transit et le cadre qu'on avait imaginé au départ, c'était pendant une heure de lire des textes à nous. Nous, c'est un groupe de personnes qui se connaissent, qui se retrouvent pour parler autour des maladies chroniques que nous avons. Et on avait imaginé donc lire nos textes pendant une heure et que pendant une heure, les personnes du public puissent venir lire leurs textes. Au final, ce que vous allez entendre, c'est une soirée où ça s'est plutôt tuilé, où ça s'est mélangé. Donc, on a des textes à nous, des textes d'autres personnes.
Et aussi, au milieu, du coup, dans les personnes qui sont venues, il y avait une personne de l'association Les Dévalideuses qui présente l'association au milieu de tout ça.
Voilà, et du coup, vous pourrez entendre à la fois des textes qui ont été lus en direct, mais aussi des enregistrements qui nous ont été envoyés par des personnes qui n'étaient pas à Marseille. Il y a des textes qui ont été écrits pendant des ateliers d'écriture qu'on a animés entre nous, et d'autres qui ont été faits par des personnes dans leur coin, dans leur lit, sur leur table, enfin, où elles voulaient.
Voilà.
Voilà.
Ok, très bien, merci. Et donc on va passer à l'agenda, pardon, oulala. Du coup, on va commencer tout de suite par demain, le jeudi 8 mai, à 14h30, à la Porte d'Aix. Du coup, rassemblement à l'occasion des 80 ans du 8 mai 45. Alors que la foudre coloniale frappait en Algérie, nous ne pouvons considérer le 8 mai 45 et les jours suivants comme l'incarnation de la libération. Le 8 mai 45, le jour même de la capitulation de l'Allemagne nazie, marque à Sétif et sa région le début d'une sanglante répression perpétrée en réponse aux manifestations de nombreux jeunes Algériens qui rejoignent les rangs des mouvements nationalistes pour revendiquer leur libération et indépendance. Kateb Yassine, alors lycéen, précise que c'est en 1945 que son humanitarisme fut confronté pour la première fois au plus atroce des spectacles. J'avais 20 ans, le enfin je le cite hein, évidemment, j'avais 20 ans, le choc que je ressentis devant l'impitoyable boucherie qui provoqua la mort de plusieurs milliers de musulmans, je ne l'ai jamais oublié. Là se cimente mon nationalisme. Ce qui se passait à Sétif et dans la région nord-est de l'Algérie fait écho à d'autres événements contemporains. Le massacre du camp de Tiaroy au Sénégal en 1944 et les répressions de Madagascar en 1947 qui constituent avec Sétif un tournant majeur des luttes de libération coloniale. À Marseille, à travers ce rassemblement, nous exigeons que ce crime de 1945 en Algérie, Sétif, Guelma, Kerata, soit reconnu comme crime contre l'humanité, que la ville de Marseille impulse une politique décoloniale à la hauteur des enjeux que sa position géographique, sociale et historique lui confère en inscrivant ce massacre dans l'espace public comme d'autres villes. La création de lieux de mémoire consacrés aux crimes coloniaux et aux luttes de libération, l'ouverture de toutes les archives, que la recherche historique sur ces questions soit encouragée dans un cadre international et indépendant. À l'issue de cette manifestation, à 17h30, il y aura des lectures partagées consacrées au massacre de Sétif. À nouveau à la librairie Transit, au 51, boulevard de la Libération. Je passe la feuille à ma camarade pour le samedi 10 mai.
Ouais, le samedi 10 mai à 18h à Vidéodrome, ce super cinéma du cours Julien, on diffusera le film Paradis Barbarie de Marie Moreau. Je peux vous lire la présentation. Un ensemble de personnes malades, en rémission ou guéries du cancer ont convenu d'un jeu. Il s'agit d'un jeu de mots par lequel ils, elles, expriment à haute voix, ici et maintenant, ce que leur fait la maladie, le cancer, la possibilité de disparaître, la vie. D'un auditorium à l'ascension d'une colline, elles cherchent un passage pour faire valoir ce que le cancer leur lègue. Ce film s'en fait l'acte.
Du coup, le dimanche 11 mai, à 18h, devinez où ? 1, 2, 3, ça y est, vous avez trouvé. Au Vidéodrome, l'équipe de l'émission Sur le fil de Radio Galère, qui passe le dimanche, du coup, de 18h à 19h, hein, c'est ça, je crois ? Oui, vu que ce sera en direct, c'est ça. Vous propose un voyage sonore en direct et en public sur la thématique des cartes. Alors, elles disent « Venez nous écouter au Vidéodrome 2, cours Julien, ce dimanche 11 mai à 18h ». Et je vous disais ça parce qu'en fait, c'est vraiment très très chouette d'écouter de voir des émissions en direct et en public. Dimanche dernier... ou peut-être samedi dernier, aux 96 heures contre les prisons, il y a eu Parloir Libre, oui c'était samedi, mais vu que c'est Parloir Libre, en direct et en public sur la plaine, quoi. Et c'était vraiment un très beau moment de radio, enfin, pour les gens qui écoutaient, j'espère aussi pour celles qui faisaient l'émission. Voilà, donc je vous invite à venir voir ce dimanche 11 mai à 18h sur le fil au Vidéodrome sur le Courju. Et le 12 mai.
Le 12 mai, c'est la journée de. Un peu de. Je ne sais pas comment dire. Sensibilisation. En tout cas, de mobilisation autour de l'encéphalomyélite myalgique, qui est du coup. cette maladie dont certaines d'entre nous, surtout, que certaines d'entre nous ont dans notre petit groupe là qu'on vous présente la soirée ce soir. Et c'est une journée de mobilisation qui est organisée par l'association Millions Missing. Et souvent, il y a des actions qui sont de faire des piles de chaussures pour dire, ben voilà, tous les gens qui sont dans leur lit et qui ne peuvent pas être avec vous à cause de cette maladie sur laquelle il y a très peu de recherches, même si le Covid, ce qu'on appelle les Covid longs, souvent c'est ça qui se passe. C'est cette encéphalomyélite myalgique. Du coup, ça a un petit peu avancé, mais quand même, globalement, il n'y a toujours pas de traitement pour cette maladie et très peu de recherches. Voilà.
Et du coup, il va y avoir aussi en mai un festival qui s'appelle La Chignole, qui est un festival de partage de savoir technique. Et ça se passe du 17 mai au 24 mai. C'est pour un public meuf et personne queer. Ce sont 8 jours d'ateliers d'initiation, de découverte et d'échange de savoir-faire technique, mais aussi de projection et soirées festives dans différents endroits de la ville, militants, etc. On parlera menuiserie, voiture, musique, métal, mais aussi films documentaires, vélo, maçonnerie, cinéma, joaillerie et bien d'autres choses encore. Alors, je vais vous donner l'adresse du site, c'est La Chignole, alors LACHIGNOLE, festival.fr. Puis avant, vous trouverez bien. Et du coup, il reste quelques places dans certains ateliers, notamment celui de fabrication d'un purificateur d'air pour les collectifs, pour les lieux collectifs. Du coup, qui se passe, j'ai pas mis la date, mais c'est le samedi 23 mai si ça existe, ou 24 mai si ça n'existe pas. De 14h à 17h. Et du coup, c'est pour fabriquer des purificateurs d'air. Je crois qu'il y en a 3 qui seront fabriqués et qui seront après disponibles pour les lieux collectifs où il y a des concerts, des trucs, des gens qui se réunissent dans des petits espaces et un purificateur d'air, ça permet que l'air soit plus respirable pour les personnes qui ont une immunité un peu qui peuvent pas se permettre de choper des maladies qui ont déjà ce qu'il faut. Donc après on pourra en fabriquer plein et puis il y aura plein de gens qui pourront venir dans nos espaces.
Et notre dernière information de l'agenda. Non, après on passe à l'agenda musical. C'est encore une info radio. Le 20 mai à 21h sur Radio Galère, ce sera la première de Crabe et Chimère, une nouvelle émission qui parlera notamment de cancer, mais j'imagine pas que, de manière un petit peu poétique. Et ce sera tous les troisièmes mardis du mois, à 21h.
Alors, du coup, vu qu'on a un peu le temps avant la musique, je vais annoncer justement de la musique, c'est drôle. Il y a plein d'autres infos plein d'autres infos militantes. En fait, il y a les affaires du militantisme reprennent malgré les interdictions diverses et variées. Voilà, donc je vous invite à regarder des agendas militants sur Mars Info, sur Mille Babors, voilà. Mais deux concerts que je voulais annoncer. Du coup, il y en a un qui sera le 17 mai à l'Embobineuse, boulevard Bouès. Je ne sais plus le numéro. Du coup, il y aura Mauve, qui est une rappeuse de Grenoble, et Lamal, une rappeuse de Marseille, et deux DJ après. Voilà. Enfin, j'imagine après. Et le 28, il y a les Van Van qui passent à l'Embobineuse. Je ne sais pas à quelle heure. Et du coup, voilà. Et aussi, le 25, il y aura un concert, mais vous faudra regarder sur les murs, il y aura des affiches. Voilà. Eh bien, on va... avant la musique, voilà. Voilà. Alors, avant la musique. À vous.
Oui, on s'est dit que peut-être, du coup, comme après, on va passer une musique et après vous passer le montage de cette soirée. On s'est dit peut-être on pouvait vous dire, mais pourquoi ? Pourquoi on diffuse ? Pourquoi on a enregistré cette soirée ? Et pourquoi on la diffuse à la radio ? Déjà parce qu'à Transit, il n'y avait vraiment pas du tout assez de place. Beaucoup, beaucoup de gens sont venus. Et bon, déjà, le lieu en soi n'était pas très, très accessible. Mais le fait qu'il y ait plein de monde et qu'on ait complètement paniqué, ça n'a pas du tout aidé. En tout cas, je pense qu'on était très impressionnés. Et du coup, voilà, ça permet que ce qui s'est dit puisse s'entendre quand même en dehors de cette soirée où il y avait, je sais pas, 30 places.
Ouais, et donc dans la même lignée, on avait envie de garder la trace et on est en train de faire une brochure pour les personnes qui aura envie de lire les textes avec des dessins et les textes. Voilà.
Et quoi ? Et j'ai juste écrit. Putain, comme on sort pas beaucoup aussi et qu'on on nous entend pas trop. On s'est dit que c'était pratique de faire un format qui puisse être écouté sans sortir de chez soi. Voilà.
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
Anxiety. border? What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order?
Marco,
Marco,
Polo,
Polo,
Negro run from Popo,
Popo.
That blue light and that Rojo,
Rojo.
And it's like I get this tightness in my chest, like an elephant.
Bonsoir à vous. Je vais un peu raconter la naissance un peu de cet événement, pourquoi on est là ce soir à Transit. En fait, il y a à peu près 2 ans, il y a eu un mail sur la liste très en colère qui a été envoyée d'une personne en disant « Tiens, j'ai envie de faire lien avec des personnes concernées par la maladie, le handicap, le validisme de manière générale ». Et du coup, après, ça a donné lieu à une liste WhatsApp où plusieurs personnes ont été sur cette liste. D'abord, la liste, elle servait plutôt pour se donner un peu des contacts de soignants à aller voir ou ne pas aller voir. Et puis, au fur et à mesure, ça a pris un peu plus de place. Enfin, il y a eu une proposition de se voir à peu près tous les mois. Ça a pris plein de formes différentes, des discussions. On a aussi fait des moments d'écriture ensemble. Et après, il y a eu... En fait, il y a une personne qui est bénévole à Transit, qui est aussi sur ce groupe WhatsApp, et qui a envoyé un message en disant que Transit cherchait à faire un rayon sur le validisme et cherchait à avoir des références de bouquins. Et du coup, nous, on s'est dit, ah bah... En plus de donner des références, on n'aurait qu'à faire une soirée pour inaugurer ce rayon sur le validisme. Il n'y a toujours pas de rayon sur le validisme ici, mais on s'est dit quand même, c'est pas grave, on fait quand même une soirée à Transit sur le validisme. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc on est toutes des personnes concernées par le handicap, la maladie. Et oui, un peu dans la même veine que on va pas attendre qu'il y ait un rayon de bouquins sur le validisme pour faire une soirée sur le validisme. On sait aussi que malheureusement Transit, ces toilettes ne sont pas accessibles puisqu'il y a les marches et qu'il faut monter. Et on s'est vraiment posé la question de est-ce qu'on fait cette soirée ou pas avec cet obstacle-là. Et on s'est dit que malheureusement aussi pareil, en fait on est dans une société hyper validiste et que si c'est vraiment pas satisfaisant, mais que si on veut commencer déjà à faire des choses, parce qu'en vrai c'est notre premier événement, bon bah fallait aussi malheureusement se satisfaire de ce lieu qui est pas totalement accessible. Donc voilà, ça on avait à cœur de le dire. Et sans doute que vous poserez la question pour nous rejoindre dans le groupe. Mais il y a quelque temps, on a pris la décision de fermer le groupe, malheureusement, en se disant qu'à chaque rencontre, on accueillait des nouvelles personnes et que ce n'était pas hyper facile pour nous parce que parler de nos états, c'est parler d'intimité et que c'était aussi fatigant à chaque fois d'accueillir des nouvelles personnes. si vous voulez mettre vos, enfin, si vous êtes intéressé pour monter un groupe comme le nôtre, en fait, c'est largement possible. Il faut juste faire un groupe WhatsApp. Donc, si vous voulez, s'il y a des personnes qui sont intéressées, on pourra laisser une feuille plus tard pour ça.
Bon, bah là, voilà. Plutôt, on se dit qu'on porte le masque, sauf effectivement quand on lit, c'est au choix, comme vous voulez. Plutôt, on est sur une optique de réduction des risques plus que de contrôle. Et on est quand même beaucoup de personnes dans cette pièce avec des systèmes immunitaires un peu bas. On prend ça en compte. Une autre règle qu'on se demande de suivre, c'est d'éviter les applaudissements, notamment pour la sensibilité au bruit, mais aussi pour les égos. Ce qui va se passer, du coup là, pendant la première heure, on s'est dit, nous on va lire des textes que nous on a écrits, les personnes du groupe qu'a présenté Mélanie. Sauf le premier texte, on va commencer par, on va vous lire des morceaux de l'introduction du livre de Zig Blanquer, Nos existences Andy, qui est sorti fin 2024 chez Taïn Party. Voilà, et qui est important. Et après, il y a une heure où ce sera possible de venir partager des textes ou des chansons ou des trucs que vous auriez écrits, apportés.
Je ne me qualifie pas prioritairement de militant antivalidiste, mais autonomiste. Je ne peux pas dissocier la lutte autonomiste andie d'autres luttes, historiques et actuelles, voulant s'affranchir d'oppression. Déjouer le validisme ne peut fonctionner de façon singularisée, mais nécessite une articulation à d'autres discriminations à affronter, à rompre. C'est notamment en cela que je me méfie du vocable militant en vogue de l'intersectionnalité, qui s'apparente souvent en France à additionner la connaissance lettrée et ou virtuelle d'oppression pour satisfaire du narcissisme militant, plutôt que de s'engager sur les terrains à lutter de façon transversale. Si je suis traversée par du validisme, c'est forcément que moi aussi je traverse en tant qu'oppresseur d'autres vécus minoritaires. Le validisme que je subis ne se retrouve pas prioritaire vis-à-vis d'autres oppressions, mais il appartient à un agglomérat de destruction néolibérale. Les luttes ne peuvent que se renforcer en convergeant. Mon parcours est queer, TPGB, transpd bigouine, andy, féministe, antipatriarcal, désinstitutionnaliste, antiraciste, décolonial, fondamentalement antifasciste. Car il s'agit d'autant de luttes contre l'arbitraire qui peut broyer la valeur d'une multitude de vies. Ce parcours n'est jamais terminé. Il est constamment en recherche d'apprentissage et d'analyse de mes propres écueils. Il se doit d'être vigilant aux nombreux mécanismes trompeurs du néolibéralisme qui adore se réapproprier les savoirs des luttes minoritaires pour en faire profit.
Nos existences andy n'ont plus à naître dans l'empêchement et l'isolement. Notre culture andy dispose d'assez de richesses et de palpitations pour se déployer, pour rencontrer nos semblables, puis naviguer avec de plus en plus de fluidité et d'harmonie dans nos entourages valides, dans nos projets en société, dans nos engagements militants. Avec une culture andy visible et facilitatrice socialement, qui valorise l'autonomie en tant que codépendance solidaire et non pas comme l'indépendance néolibérale. Une culture qui ne biographie plus de façon mélodramatique un avant et un après, lorsqu'une maladie chronique et ou du handicap se déclare, mais qui intègre pleinement la maladie, comme pouvant faire partie du déroulement d'une vie. Une culture qui priorise la recherche et les budgets en matière de care quotidien, plutôt que de cure fantasmée. Care, c'est le soin, et cure, c'est la guérir. Évidemment, il est nécessaire que la recherche scientifique se poursuive sur le cure quand celui-ci est réaliste, mais elle doit demeurer tout autant concentrée aux agencements du care. Une culture abolissant les enfermements, les séquestrations médico-sociales. Une culture au sein de laquelle le validisme n'est plus un passeport diplomatique pour fournir des excuses rhétoriques et volatiles, mais où il devient le point à partir duquel rectifier concrètement et durablement sa réflexion et ses pratiques. Notre culture andy offre des potentiels communs à quiconque souhaite que la notion de capacité soit rayée au profit de celle de vitalité. Je ne parle pas d'une vitalité version misérabiliste performance spectaculaire de l'inspiration porn pour les personnes valides, voulant éviter la moindre conscience de la faillibilité des corps. Les mêmes qui valorisent un vitalisme eugénique,
avec un discours encore plus décomplexé depuis la pandémie du Covid, les mêmes qui légifèrent des meurtres sous couvert d'euthanasie. Je souhaite une vitalité qui prenne en compte la pleine autonomie des personnes à disposer de leur vie, quelles que soient leurs capacités corporelles, cognitives, psychiques, sensorielles, quel que soit leur état de santé, quel que soit leur rendement face au capitalisme. Jouir d'une vie ne doit dépendre d'aucune catégorie, aucune prédisposition. Les personnes handies ont toujours vécu de façon considérablement ingénieuse face aux arbitraires érigés contre leurs existences. Ces arbitraires sont pourtant d'une violence inouïe, en constante adaptation vers un même but d'annihilation. Pourtant, nous sommes vivantes. Et pourtant, nous déployons nos vies au-delà des diagnostics mortifères, des injonctions délétères, des maltraitances médicales, des inaccessibilités multiples, des mises à l'écart social.
Comme dit Johanna Edva, être malade, être handi, arriver à la limite de ses propres capacités, est l'une des expériences les plus universelles que l'humanité puisse vivre. Et c'est une expérience d'une richesse kaléidoscopique. Nos existences handies fabriquent une myriade d'inventivité, de ténacité, de générosité, d'équilibre de la maîtrise du temps et de l'espace bien au-delà des rétrécissements qui nous sont imposés. Nos luttes ne se veulent plus unidirectionnelles pour des droits, mais transversales en matière de disability justice. Hayley Hudson, en s'appuyant sur le travail de Patty Byrne, parle de la façon dont divers systèmes d'oppression interagissent et se renforcent mutuellement. Et comment nos luttes doivent interagir avec d'autres mouvements en quête de libération, tels que la justice raciale, la justice environnementale, la lutte contre les violences policières, etc. Il n'est pas possible de limiter nos vies. Il est temps de les célébrer à partir de leur justesse, de leur tendresse, de leur solidarité, de leur perspicacité, de leur splendeur. Ce sont autant de forces pouvant être distribuées largement, qui peuvent se combiner à plein de vécus divers, qui sont vigueur de présent et futur. Les limites validistes qui nous sont imposées ne font que nourrir et renforcer nos puissances d'émancipation et de libération, autant que de création, et ces puissances sont transposables à de nombreuses vies autres que handi. Les frontières ne sont que factices et impérialistes. Le handicap sait parfaitement naviguer au-delà des frontières, des limitations. Nos existences handi n'ont plus à être un bouclier contre le suprémacisme valide, mais l'effondrement de ce dernier. Et nous allons danser sur ces ruines. C'était écrit en août 2024.
Je vais me lancer à lire le texte que j'ai écrit pour ce soir. Au tout début, il y avait. C'est flou le tout début d'ailleurs. Il y a des petits trucs, des subtilités. Une douleur un peu sourde dans le genou. La sensation cutanée d'une paralysie faciale, des fautes d'orthographe, les maux de tête qui descendent jusque dans les cervicales, puis se transforment en nœuds musculaires et finissent en engourdissement dans la main. Et puis ça s'accélère. Il y a la fatigue qui mute en épuisement. Penser devient difficile, comme si je roulais dans une purée de petits pois. La légèreté qui s'évapore, les mots que j'oublie, les arrêts de travail, marcher moins longtemps, marcher avec une béquille, voir de moins en moins mes amis, les entendre me dire que je suis trop occupée, dormir. Me sentir incomprise, en vouloir à la terre entière. Désépaissir le brouillard au lieu de dissiper le brouillard. Pieuvre pour méduse, pour ventouse. Supporter l'inconstance. Des jours sans, des jours avec. Capter que beaucoup de choses ne vont pas. Ne pas en faire la liste ici. Prendre de plus en plus de rendez-vous médicaux. Avoir peur, avoir mal, ne pas renouveler mon CDD. Errer médicalement. Passer du coq à l'âne. De la détermination au désespoir. Ne pas supporter le tissu de ma jupe longue sur le genou. C'est pas une douleur, c'est une sensation qui tape sur les nerfs. Apprécier les opiacés. Sortir maquillée. Du noir sur les yeux et du rouge sur les lèvres, comme pour mettre de la couleur à ma mélancolie. Dire mélancolie pour ne pas dire dépression. Paraître ou disparaître. Avoir bonne mine. L'entendre trop souvent. Me sentir dépérir. C'est le papier peint qui s'effrite à l'intérieur. Mettre du chaud, du froid, des électrodes, ostéo, psy, acupuncture, psychiatre, naturopathe, spécialiste, la liste est longue. Chercher à comprendre, faire la sieste, se convaincre que ce n'est pas une perte de temps, marcher avec deux béquilles, s'effondrer mais tenir, rejoindre des amis dans un bar, être là mais s'absenter dans ma tête, trop de brouhaha, trop de boue, trop mal au crâne, trop, s'écarter du monde quand c'est trop, en avoir marre des conseils non sollicités, prendre en compte certains conseils. Avoir envie d'ouvrir la fenêtre de ma chambre, faire taire la pulsion. S'en empêcher, c'est l'anniversaire d'une amie dans le salon. Pleurer, les douleurs qui s'accentuent, celles qui ne partent plus. Avoir envie d'attention, ne pas en avoir envie, rester allongé. Chasser les pensées sombres. S'imaginer marcher sur un sable chaud et fin. Et puis il y a Hitler qui surgit, et son projet d'exterminer aussi les handicapés. Être face à un médecin qui prend le temps, enfin. La révélation du diagnostic. Se sentir à la fois euphorique et paniqué. La révélation à l'entourage. Les réflexions à côté de la plaque. L'écoute juste. Aussi. Apprendre à dire « je suis malade ». S'entraîner à dire. Et puis quoi dire ? J'ai une maladie chronique. J'ai une maladie grave. Je suis handicapée. J'ai un handicap invisible. Le dire beaucoup puisque maintenant il y a un diagnostic. Le revendiquer même. Apprendre à demander de l'aide. Encaisser les maladresses. Parler de maladresse plutôt que de discrimination. Dire ça, c'est validiste. Rompre avec des amitiés jusque-là inébranlables. Demander qu'on me fasse des courses. Pleurer en regardant les autres danser. S'isoler pour ne pas faire la rabat-joie. T'entendre dire que tu ne vas pas pouvoir faire mes courses parce que tu es débordé. Écrire pour se consoler. Écrire pour dire que ça existe. Avoir le seum. S'entendre dire qu'il faut accepter, lâcher prise. Je n'arrive pas à rebondir. Désolé. Faire des crises d'angoisse. Ressentir une douleur au genou qui me donne envie de vomir. C'est comme si mon genou se trouve coincé dans un étau. Et c'est comme si on serre très fort l'étau. Et en même temps, il y a comme deux doigts calés sous ma rotule. Et en même temps que la douleur, il y a le mot viol qui martèle mon crâne. Et le prénom du violeur. Ça s'entrechoque, ça bouillonne. Ah bah c'est le pompon. Ne pas avoir le choix, soigner ça aussi. Recevoir un refus d'AH, mettre de l'air dans mon quotidien encore. Vivre l'instant présent, en avoir ras-le-bol de l'instant présent. Avoir un rendez-vous téléphonique avec Pôle emploi chaque mois. Vous en êtes où dans votre recherche de travail ? Chaque mois. Écouter les points de vue des autres, les paroles censées être réconfortantes. La maladie est là pour dire des choses, pour mettre à l'épreuve, changer radicalement, faire preuve de résilience. Écouter, hurler à l'intérieur. Résilience va te faire foutre la résilience. Se taire. Prolonger la sieste. Passer au RSA. Ne plus marcher tant la douleur est grande. Dessiner à la place. Avoir une tendinite à l'avant-bras. Rencontrer des personnes qui vivent des choses identiques. Fabriquer un nouveau nous. Avoir envie de danser. Avoir encore envie de révolution. Ne pas m'énerver contre cette connasse dans la file d'attente. M'énerver. Craquer pour une part de gâteau plein de gluten. Sentir qu'être malade se normalise. Est-ce que c'est ça accepter ? Est-ce que c'est ça se résigner ? Dire avec humour que tout ça c'est la faute au capitalisme et au patriarcat. Le dire avec légèreté et le penser sérieusement.
J'écris ce texte avec une bouillotte sur la nuque, la main droite qui tire et ma fille de 5 mois qui fait la sieste dans la pièce d'à côté. Je le dis parce que je crois que ça a une certaine importance pour la suite des choses. J'écris ce texte... Oh bah voilà, moi je suis déjà émue, pardon. J'écris ce texte sans trop savoir comment commencer, par quel bout prendre la maladie. Tomber malade. Souvent, quand je dis « Ah oui, quand je suis tombée malade », ou « Ça, c'était avant que je tombe malade », en général, là, j'évoque un truc qui demande de l'énergie et de l'insouciance, comme faire la fête toute la nuit, prendre des drogues chimiques, trop m'activer, entretenir des amitiés, pas terrible. Maintenant, ma vie, c'est plutôt au lit à 21h, tisane, longue pause, relations humaines de très grande qualité. Je dis donc « tomber malade ». Ça fait toujours son petit effet dramatique si les gens en face de moi sont en bonne santé. Parce que voilà, c'est ça que j'ai envie de raconter. Je ne suis tombée malade que pour les personnes qui me regardent d'en haut. On peut tomber de sa chaise, on peut tomber des nues, on peut, je crois, tomber amoureuse d'un coup par surprise. Mais je ne suis pas tombée malade. À la limite, je me suis pris les pieds dans mon corps et mon moral, j'ai glissé au ralenti sur une peau de banane qui traînait par là. Il serait plus correct de dire « on m'a jetée malade » ou encore que je me suis faite pousser dans le dos malade. C'est vrai, ma maladie chronique s'est déclenchée sans prévenir, brusquement. Elle m'a entraînée avec elle dans un bassin d'eau glaciale. J'ai d'abord bu la tasse et il a fallu apprendre à nager, seule, sans bouée. Mais si j'étais vraiment tombée comme le sous-entend l'expression, je crois que j'aurais coulé à pic au fond de la mer. Et ce n'est pas ça qui s'est passé. Vous connaissez cette théorie qui dit qu'un corps humain flotte s'il reste calme et se noie s'il panique ? J'ai appris à flotter. flotter malgré tout ce qui s'est acharné à me tenir la tête sous l'eau, la douleur, les effets secondaires des traitements, le validisme ordinaire à chaque coin de rue, les médecins merdiques, les regards sans empathie mais avec beaucoup de pitié. Flotter au milieu de tout ce qui est soudain devenu hostile, par exemple. Les transports bondés, pleins de grippe et sans masque, le gluten, les jours froids et pluvieux, le stress, les choses trop lourdes et les gestes répétitifs, le boulot à abattre sans rechigner en bon petit soldat du capitalisme. Mais voilà, pour le moment je ne suis pas tombée. Je flotte. Certains jours, la tempête fait rage et c'est difficile. Je dérive dans les courants, la maladie chronique en partenaire particulière parce qu'il le faut bien. Depuis les vagues, je vois sur le rivage toutes ces personnes en bonne santé qui s'agitent. J'en entends se plaindre parce qu'elles ont un rhume. Et il y en a même qui font du jogging. J'ai maintenant avec moi une bouée fiable, comme une solide impression d'avoir compris ce qu'était le soin et que j'étais mortelle. Si à l'annonce de la maladie, j'ai eu peur que ma vie s'arrête, si j'ai eu peur de disparaître. C'est parce qu'on m'avait toujours fait croire qu'on tombait malade comme d'une grande échelle. J'ai seulement descendu quelques étages, j'ai pris un peu le large. J'ai une bouillotte sur la nuque, la main droite qui tire, maintenant la gauche aussi, et même une enfant qui fait la sieste dans la pièce d'à côté. Et en attendant que tout ce grand cirque qu'est la vie s'arrête, je suis plutôt heureuse de savoir que je sais bien flotter.
Quand je dis que j'ai un problème au niveau des articulations, ça m'est arrivé qu'on me demande...
Et t'as essayé le bourgeon de cassis ?
Mais non, Martin, je n'ai pas essayé le bourgeon de cassis. Mais quelle belle idée, Martin ! Je vais essayer le bourgeon de cassis. Peut-être que miraculeusement, le bourgeon de cassis va me guérir de cette maladie incurable. Et peut-être, Martin, que tu devrais appeler toutes les personnes qui en sont atteintes, n'est-ce pas ? Et les chercheuses, les rhumatologues, tout le monde, pour leur annoncer la grande nouvelle. Tu as le remède, Martin. Mais c'est super, tu le sais mieux que tout le monde. Le bourgeon de cassis va nous sauver, nous, bande d'éclopés qui ne cherchons pas plus loin que le bout de leur nez, et en fait, tu deviendrais un peu Jésus, tu vois. Imagine celui qui a enfin trouvé le moyen de nous guérir, le prophète qui nous débarrassera enfin de la médecine allopathique. Martin, tu es l'émissaire de cette puissante nature qui peut tout guérir. Merci, Martin, vraiment merci. C'est incroyable, bourgeon de cassis, mais je me sens si honorée de remettre mon corps à tes si précieux conseils. Moi qui n'y connaissais rien, finalement. Moi, c'est vrai, qui suis-je, Martin, pour savoir ce qui est bon pour moi ? N'est-ce pas, Martin ? Ou devrais-je dire Martin Jésus ?
J'ai répété mes symptômes des centaines de fois, plusieurs fois aux mêmes personnes, qui pensent peut-être que répéter la question changera la réponse, ou qui ont juste oublié, parce que ça se voit pas. Pourtant, quand on te voit, t'es en forme. Oh, comme t'as repris le taf, je croyais que ça allait mieux. Mon état est stable, oui. Ce qui a été de mieux en mieux, c'est ma gestion de cet état. Mais là, je suis au max. Je fais tout ce que je peux, et la seule chose qui pourrait m'aider à ce que ce soit mieux, ce serait que mes proches me croient. Que mes amis arrêtent de lever les yeux au ciel quand je prononce le mot « handicapé » en parlant de moi. Qu'on arrête de me dire que je devrais me bouger un peu plus. Qu'on arrête de me dire « t'as l'air fatigué ? T'as fait la fête hier ?» La réponse est non. Qu'on arrête de s'étonner ou de rire quand je galère à me lever. Je voudrais qu'on me croie. Que mon état physique puisse simplement exister entre nous. Je ne demande pas de pitié, ni d'aide. De toute façon, à quoi bon demander de l'aide à des personnes qui ne croient pas que je pourrais en avoir besoin ? Ça pourrait me permettre d'avoir confiance en moi, en ma connaissance de mes limites, et peut-être à mieux les accepter et les gérer. Mais quand tu dois te justifier une fois par semaine auprès de tes proches, le doute s'insinue. Est-ce qu'ils auraient pas raison ? Est-ce que j'exagère ? Est-ce que je le dis mal ? Est-ce que j'en rajoute ? Si oui, comment ne pas en rajouter quand on ne te croit toujours pas au bout de 2 ans ? Est-ce que c'est de ma faute ? De la leur ? Est-ce qu'on peut en vouloir à une personne valide de ne pas intégrer l'information de la non-validité de quelqu'un d'autre ? De ne pas voir les journées sans bouger du canapé pour récupérer des 3 bières exceptionnelles de la veille, de ne pas connaître la théorie des cuillères, de ne pas retenir l'information que leur ami n'est plus comme avant. Que la maladie, ce n'est pas juste être malade ou être mort, et qu'il y a un éventail d'états possibles. Que ce n'est pas un vilain mot, malade. Que c'est à elle et eux qu'il fait le plus peur. Nous, on n'a pas eu le choix que de l'accepter. Mais si ça se dégrade, si c'est la crise, qui viendra à mon chevet ? Les mêmes personnes qui nient mes symptômes au quotidien, qui me considéreront enfin assez malade pour mériter leur attention, ce serait continuer de me soumettre à leur baromètre de valide, et ça me donnerait plus la gerbe que n'importe quel traitement. Ce n'est pas le corps médical qui me dépossède de ma vie, c'est votre regard sur mon corps médicalisé. C'est vous, vous qui pensez pouvoir décider de quelle énergie je dispose, si j'exagère ou si je mens. Je vis à l'ombre de vos soupçons. Et j'en peux plus de regarder mon corps et ma vie à travers vos yeux, avec mépris.
Moi, je voulais juste dire que dans ce groupe, c'est assez fou parce qu'on ne se connaissait pas. Et ce qu'elles écrivent et ce qu'elles lisent, j'aurais pu l'écrire ou le lire. Donc, j'adore. Merci d'avoir dit ces choses-là pour moi. Bon, à mon tour. Je suppose que tous les êtres humains se demandent forcément un jour ce que c'est que de vivre, quel en est le sens. Souffrir d'une maladie chronique, c'est selon mon expérience, être ramené implacablement au fait que vivre, c'est essentiellement manger, boire, dormir, pisser, chier et respirer. Et j'ajouterai préserver sa température corporelle. Et devoir réapprendre tout cela. C'est être contrainte de se réancrer dans son corps, ne pas tenter de s'y soustraire. C'est aussi comprendre que la grande majorité de mes inquiétudes, qu'elles soient existentielles ou anecdotiques, n'ont plus lieu d'être, n'ont plus droit de citer, en ce qu'elles aggraveraient mes maux. C'est comprendre que beaucoup de sujets qui semblaient d'importance n'en ont plus aucune face à la maladie. C'est ainsi accéder par moments
à une forme de détachement et de sérénité que je n'aurais jamais connue tant que je me pensais valide. C'est savoir aujourd'hui que réussir sur le plan professionnel, social, économique, est un enjeu qui est définitivement sorti de ma vie à 46 ans. De ce point de vue, c'est un énorme poids en moins sur mes épaules. Ça fait tomber beaucoup de choses, une maladie chronique. C'est s'apercevoir que l'humilité pèse beaucoup moins lourd que l'ambition. C'est être forcé à l'humilité et s'en trouver plus légère. C'est se souvenir que la seule chose qui ait encore de l'importance, c'est la joie. Être malade chronique, ça peut parfois être triste, mais pas forcément. C'est aussi faire l'expérience de l'essence même de la joie, parce qu'il semble parfois qu'il ne reste que ça et que rien ne peut me l'enlever. C'est comprendre que la joie ou l'anxiété ne dépendent pas tant de contingences extérieures mais de quelque chose en soi d'assez indéfinissable qui dépasse les événements concomitants. Être malade chronique, c'est se connaître vulnérable, et paradoxalement connaître aussi ce qui en soi est indestructible, la joie. C'est endurer le passage du temps. Dans maladie chronique, il y a chronique. C'est apprendre à laisser les heures vides se remplir. De quoi ? D'épaisseur. D'une douceur chaude, de sens. C'est apprendre une chose extrêmement difficile, apprendre à faire rien, à se reposer absolument, sans forcément dormir, mais sans scroller. Ça, c'est dur. C'est écouter son propre souffle, les battements de mon cœur qui s'imposent à moi. C'est au début ne plus pouvoir se projeter, faire l'expérience d'un temps à l'arrêt. Puis, c'est avoir de l'espoir, quoi qu'il en soit, dans la recherche scientifique, dans l'avenir, dans les ressources de mon organisme. C'est de nouveau me projeter sur le long, long terme, sur les années, les décennies à venir. Peut-être qu'un jour, je guérirai. Vivre l'expérience d'une maladie chronique, c'est la merde, c'est le karma. C'est une expérience qui, pour moi, touche à une forme d'absolu, une expérience de la vie même, une expérience de l'essentiel que je ne souhaite à personne et qui, pourtant, m'apporte indéniablement beaucoup. Être malade chronique, c'est se retrouver dépositaire d'une forme de savoir très spécifique, sans l'avoir demandé et dont on se serait bien passé, mais qui est là et que nous pouvons tenter de vous partager. Merci de m'avoir écouté.
Je
Je voulais juste préciser avant de commencer que depuis que j'écris ce texte, mon état de santé s'est beaucoup amélioré. La première année où je suis tombée malade, je la vis couchée 23h30 sur 24. Je n'ai pas la force physique d'ouvrir moi-même les volets de ma chambre, ni de tenir assise sur une chaise. Je vis le plus possible dans la pénombre et le silence. Je suis dépendante pour absolument tout, sauf pour aller aux toilettes et prendre une douche, bien que cette dernière activité équivaut pour moi à courir un marathon. Cette année-là, je lis un texte d'une personne qui a une encéphalomyélite myalgique, la même maladie que moi, depuis plusieurs années. Elle raconte qu'elle fait du bateau avec des amis. Comment est-il possible d'être malade et de faire du bateau? Je lis ce texte et vraiment je me dis que c'est incompréhensible pour moi. Comment se rendre jusqu'au bateau, supporter le vent, le soleil, le froid, les mouvements de la houle, réfléchir à comment piloter tout en discutant avec des amis, puis réussir à rentrer jusque chez soi et être encore en état de se faire à manger. Ne pas craindre de mettre des jours, des mois, des années à s'en remettre. Si tu peux faire du bateau, c'est que t'es en bonne santé. Si je peux refaire du bateau un jour, c'est que je suis guérie. 3 ans après être tombée malade, j'ai fait une balade en bateau sur une navette RTM dans la rade de Marseille. Je travaille 14 heures par semaine et je vis de manière autonome au 3e étage sans ascenseur. Mais je ne suis pas guérie. Entre-temps, les choses sont devenues plus claires pour moi. Comment vouloir aux autres de ne pas comprendre ce qu'est le handicap invisible quand moi-même, j'avais tant de mal à le comprendre? Quand on me demande où j'en suis de ma maladie et que je réponds que ces 2 dernières années, c'est toujours un peu pareil, les réactions sont incrédules. Mais quand même, t'as bonne mine. Mais quand même, t'es là ce soir au bar avec nous, donc c'est que tu vas bien. Fin de la discussion. Dans ce cas, j'ai toujours envie d'expliquer tout ce que ça me coûte d'être là en termes de préparation et d'endurance. Je peux être là parce que c'est la seule activité que j'ai prévue dans la journée, parce que je suis au régime alimentaire strict qui m'oblige à passer la plupart de mon temps à cuisiner et à faire les courses. Je peux être là parce que j'ai prévu du repos avant et après l'activité, parce que j'ai pas eu besoin de marcher plus de 5 minutes pour arriver jusqu'au bar. J'ai anticipé sur le siège, le dossier, le froid, le soleil, la durée, la boisson. La liste des conditions auxquelles je dois me soumettre pour être là pourrait être tellement longue. Mais la personne qui m'a fait remarquer ma bonne mine ne m'écoute déjà plus depuis longtemps. En fait, ça n'intéresse pas grand monde de comprendre ce que je vis. Ce que les gens attendent, c'est juste que je leur dise que je vais bien. Que tout ça, c'est derrière moi, parce que la pénibilité du quotidien d'une personne invalide de manière invisible, c'est d'un ennui mortel. Et je comprends ça. Mais si ça vous ennuie, alors arrêtez de poser la question, parce que devoir s'en tenir à juste « je vais bien parce que j'ai bonne mine » ou « parce que je bois un verre en terrasse », ça n'est pas vrai. Et c'est frustrant d'être à ce point incomprise. Évidemment, nous, on a envie dans ces cas-là de faire saisir à l'autre ce que c'est que le handicap invisible. Il y a quelques années, je suis allée rendre visite à un oncle de mon ex à l'hôpital. Il était en phase terminale de cancer. Il est resté allongé dans son lit, mais il avait l'air complètement normal. On discutait de vieilles comédies françaises du genre « Les bronzés font du ski » ou « Le dîner de cons », on bavardait tranquillement, on aurait dit qu'il était allongé là, juste pour une jambe cassée. On est parti de l'hôpital assez soulagé et surpris, il n'avait même pas l'air fatigué. En fait, il avait l'air carrément d'aller bien. Il est mort quelques jours plus tard. Ce que je n'ai pas compris à l'époque, c'est l'énergie qu'il a dû mettre pour nous recevoir en ayant l'air d'aller bien. Je n'ai pas pris la mesure de la fatigue que ça a dû lui coûter. Bien sûr, la maladie, ça ne ressemble pas toujours à quelqu'un qui a l'air d'aller bien et je suis bien placée pour le savoir. Mais parfois, ça ressemble à ça aussi. Avoir l'air d'aller bien, c'est apprendre à vivre avec la suspicion dans le regard de l'autre. Quand on te voit passer une journée qui semble normale, on se dit forcément qu'en fait, tu n'es pas malade et que tu en fais des caisses quand tu te dis invalide. Si tu veux être légitime à nommer ce que tu vis, il faut aller mal et être faible tout le temps. L'invisibilité, c'est le placard. La question permanente de « est-ce que je sors du placard ?» au risque qu'on ait l'impression que j'étale ma vie privée, ou au risque qu'on trouve que j'en parle trop, ou que je casse l'ambiance à l'apéro. Le mantra du validisme, c'est la silenciation et la valorisation de celles et ceux qui encaissent en silence. Souvent, les gens ont tellement peur de la maladie, d'être renvoyés au fait que ça peut leur arriver à eux et à elles, qu'ils préfèrent minimiser ou psychologiser. Faire l'hypothèse que je suis du genre à déprimer, que je n'ai pas un vrai problème de santé, mais juste des problèmes-ci. Ces préjugés, c'est fou la force que ça m'a donnée. J'en ai tiré la conclusion que surtout, surtout, il ne fallait pas que je déprime. Sans quoi je ne pourrais plus me prendre au sérieux, être pris au sérieux. On n'a jamais vu quelqu'un de si malade aller aussi bien mentalement. Mais je ne veux plus jouer le jeu de la psychophobie. accepter qu'il y a d'un côté ce qu'on prend au sérieux parce qu'ils ont une vraie maladie diagnostiquée, et de l'autre, les gens en errance diagnostique, les dépressifs et les fous. Je ne veux pas être prise dans cette logique de hiérarchisation des handicaps. Je connais mes complices et mes camarades. Qu'on soit malade dans le corps ou dans la tête, qu'on soit reconnu par la médecine ou pas, on est une grande famille et nos souffrances sont bien plus en commun que de dissemblance.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladrillos, chubascos, la voz tan tierna de mi bien amada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, irnos alumbrando la gruta del alma de aquella que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es mi propio canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Merci, bonsoir. C'est un peu un hasard, mais on s'est retrouvé à discuter. Peut-être vous connaissez déjà l'association des valideuses, qui est une asso parmi plein d'autres. C'est une association anti-féministe qui s'est composée en constatant que dans le milieu féministe, ça manquait un peu de prise en compte des enjeux spécifiques rencontrés par les minorités de genre handi, spécifiquement au niveau des violences sexistes et sexuelles auxquelles les personnes handi sont surexposées. C'est une association qui travaille à plusieurs formes d'action, on va dire un peu de désobéissance civile dans la mesure des cuillères disponibles. Un peu de plaidoyer au sens... parfois, on est sollicité, on va dire, à échelle nationale ou européenne sur des questions... C'est souvent des groupes de travail législatifs sur beaucoup les questions des violences sexistes et sexuelles pour lesquelles on apporte un regard spécifique. Là, on aimerait bien être un peu plus consulté sur la question de la loi fin de vie qui est lancée à toute berzingue et pour laquelle on pense qu'il manque vraiment une prise en compte des enjeux antivalidistes. Parce qu'on est un peu préoccupé que la loi fin de vie, ça tourne à l'eugénisme à fond, quoi. En disant, ben, si, vu le niveau de validisme dans la société, si on n'autorise pas et qu'on ne permet pas des vies dignes, comment on peut prétendre construire des morts dignes? On a un peu peur que ça... Enfin, oui, c'est ça, que ça dérive, quoi. Mais c'est un discours qui est peu entendu aussi, parce qu'à gauche, on est souvent pour cette loi, par un peu culture, on va dire, d'autoriser des nouveaux droits, quoi. Et donc, il y a cette dimension un peu plaidoyer. Après, il y a une dimension un peu plus creep, on va dire, c'est-à-dire constituer une communauté de fierté militante, avec... Et donc, pour ça, s'il y a une communauté en ligne sur un Discord. Donc, tous les gens qui adhèrent peuvent accéder à ce Discord, que vous soyez valide ou pas. Et, tout le monde peut discuter, s'auto-organiser. Le Discord, c'est un bon espace pour des gens qui font des sous-groupes et qui font leur groupe WhatsApp à eux, comme vous. Et ensuite, il y a moyen de s'impliquer plus ou moins en fonction, pareil, des cuillères et des motivations. C'est un exemple d'assaut comme d'autres, mais c'est une dimension très... Enfin, c'est vachement touchant de vous entendre raconter les textes et la force que ça a pu apporter votre groupe WhatsApp. Et merci pour ça, parce que moi, pour le coup, là, toute la série sur les maladies invisibles, j'étais en plein dedans, j'ai failli pleurer tout le long. Mais c'est vrai que là, on essaye quand même, on va dire, c'est un choix, hein, chacun a sa manière de militer. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, Handisocial va travailler plus avec les syndicats, ils vont plus avoir une logique de se rapprocher du milieu du travail. Nous, on va avoir une logique d'essayer d'imposer, on va dire, de mettre des sujets à l'agenda, c'est-à-dire d'imposer médiatiquement, en prenant de l'espace médiatique, d'imposer la thématique juste du validisme. Typiquement, il y a une nana qui n'est pas autévalideuse, mais qui est une pote, qui a été invitée à France 2. Elle a beaucoup parlé de validisme et ils ont tout coupé. Ils ont gardé que quand elle racontait sa vie, qu'est-ce qui a changé depuis qu'elle est handicapée, est-ce qu'on a changé de regard. Et elle a dit, mais j'ai dit 20 fois le mot validisme et il n'y est pas une seule fois dans le truc final. Donc on essaye un peu de faire ça. Et on a des campagnes, genre là, en ce moment, on a récolté plus de 500 témoignages sur les violences vécu pendant les parcours MDPH, donc les parcours de droit des personnes handicapées, que ce soit des discriminations comme du racisme, du sexisme, mais aussi beaucoup de violences comme bon, on va vous laisser un an sans réponse et sans argent, et du coup, vous allez être méga maltraité. Et ça, on travaille pas mal avec Mediapart, et à un moment, on espère pouvoir mettre le sujet à l'agenda. Et pour vous donner un exemple, journaliste de Mediapart avec laquelle on bosse, elle est vachement à l'écoute. Et à un moment, on lui raconte la gravité des violences, etc. Et nous dit, mais il faut agir, parce que d'habitude, on n'aime pas trop mettre des sujets à l'agenda. On réagit à l'actu, mais là, il faut mettre le sujet à l'agenda. Parce que vous imaginez, avec toutes ces violences, un jour, il y a des gens, ils vont finir à la rue ou ils vont se suicider. Alors, c'est sûrement déjà arrivé quand même beaucoup de fois. Juste, tout le monde s'en fout. Et donc ça, c'était assez édifiant, non? Enfin, on était à « oui, oui, c'est pour ça qu'il faut le mettre à l'agenda, le sujet. » Parce que tout le monde s'en fout. Même là, avec les 20 ans de la loi handicap, on a vu que ça manquait un peu de... Bon, voilà. Et donc, c'était une présentation parmi d'autres. Sachez, n'empêche que... Enfin, je suis sûr que vous le savez, mais il y a plein de collectifs antivalidistes qui font du travail de plus en plus. Il y a le CLE, avec un H, C-L-H-E. Il va y avoir Handisocial, qui est plutôt à Toulouse, mais pas que. Il va y avoir en ligne, il y a plein aussi de collectifs. Il y a Crash Room, qui est un espace où ils traduisent des textes en anglais, parce qu'il y a beaucoup de textes antivalidistes qui sont en anglais. Et après, il y a plein de gens qui écrivent, de leur côté, qui ne sont pas dans des collectifs, qui écrivent très bien. Et voilà. Et donc, je pense que c'est tout pour nous. Enfin, si vous voulez, je vais vous faire circuler des stickers que vous pourrez coller partout. Surtout qu'à Marseille, j'ai l'impression qu'il y a de quoi coller. Sur les stickers, il y a écrit « Make it accessible or burn it down ». Ça veut dire « Rendez-le accessible ou brûlez-le ». Alors là, je pense qu'il ne reste plus grand-chose à Marseille. Si je... Voilà. Donc, je vous le fais circuler, si vous voulez, coller dans la ville et expliquer-leur que c'est fini, l'inaccessibilité. Bon, on brûlera pas la librairie. On fera des toilettes au rez-de-chaussée.
Je suis émue, excusez-moi. Donc là, moi, je vais chanter une chanson que j'ai écrite. J'ai écrit cette chanson en reprenant l'air de « Touchez pas à la plaine », qui est une chanson écrite par Manu Théron pour soutenir la mobilisation contre la gentrification du quartier de la plaine. Et je l'ai appelée « Coupez-moi la tête ». Et si ça vous intéresse ou si vous avez envie de chanter le refrain avec moi, voilà. Coupez-moi la tête, coupez-moi, extirpez cette migraine de là, vertige, douleur, barrez-vous de là, c'est ma tête. Ça ne vous regarde pas, sortez de ma tête, lâchez-la, elle est à moi et à moi restera. Si vous partez, ne vous en faites pas, c'est tout mon être qui vous remerciera. Ça fait déjà trop longtemps que ça dure, que cette squatteuse s'est installée chez moi. J'ai beau lutter contre cette forfaiture, elle s'arroge d'elle-même tous les droits. C'est quand elle veut et c'est quand ça lui chante, tôt le matin, l'après-midi, toute la journée. C'est une douleur qui sans cesse me hante, même si je lui fais grimace et pied de nez. Coupez-moi la tête, coupez-moi, extirpez cette migraine de là, vertige, douleur, barrez-vous de là, c'est ma tête, ça ne vous regarde pas. Sortez de ma tête, sortez, lâchez-la, elle est à moi et à moi restera. Si vous parlez, ne vous en faites pas. C'est tout mon être qui vous remerciera. J'ai pas choisi, elle m'a mise en cage. L'accepter là m'a doué, rien n'y fait. Sa prisonnière, oui, je suis son otage. Je peux pas bouger, je reste tétanisé. Plein d'examens, d'IRM, de scanner. Rien d'inquiétant, il n'y a pas de tumeur. Surtout ne pas faire de crise de nerfs, reste seulement à ravaler ses pleurs. Coupez-moi la tête, coupez-moi, extirpez cette migraine de là, vertige, douleur, barrez-vous de là, c'est ma tête, ça vous regarde pas. Sortez de ma tête, lâchez-la. Elle est à moi et à moi restera. Si vous partez, ne vous en faites pas. C'est tout mon être qui vous remerciera. Prendre des médocs de toutes les couleurs et consulter toutes sortes de docteurs. Un léger mieux, c'est tout de suite le bonheur. Mais fausse joie, ce n'était qu'un leurre. Une maladie, invisible et tenace, face à laquelle on est tous impuissantes, désespérantes, quoi que l'on y fasse, mais la chanter pour nous rendre agissantes. Rendez-moi ma tête, rendez-moi, je la chante par-dessus toi. Cette chanson, elle est faite pour toi, qui souffre et galère tout autant que moi. Nous refusons d'être des malheureuses, nous préférons nous dire douloureuses. Alors viens donc, si tu es migraineuse, tu peux aussi rejoindre les batailleuses.
Alors moi, je vais vous lire deux textes, deux petits textes, ils sont courts, que j'ai écrits. Le premier, c'est sur les médicaments, et il s'appelle les médocs. J'arrive avec l'ordonnance pour récupérer mes substances. Big Pharma, ça m'angoisse, mais j'ai l'espoir que ça passe. Les traitements, c'est contraignant, les oublier, c'est très flippant. Quand tu prends plein de médocs, tu te sens comme une loque. Il y a toujours des amis pour te parler toxiphobie. C'est la fabrique de la honte. Tu dois rendre des comptes. On vit dans une société qui crée la culpabilité. C'est des personnes valides qui te trouvent bizarroïde. Elles t'exhortent à en finir avec ce qui te fait tenir. J'ai eu tellement de remèdes. Le pilulier m'est venu en aide. Paracétamol, tramadol, anti-inflammatoire. 17 ans quand même. Antidépresseur, celui-là t'oses même pas en parler. Anti-épileptique, j'ai cru être quelqu'un d'autre, c'était trop zarbi. Antalgique, analgésique, aspirine, ibuprofène, morphine, le tabou absolu, codéine, cannabis, lidocaïne, kétamine, défense prise en charge par la sécu, youhou ! Bon, en réalité, ça m'a juste rien fait. Injection de Botox, ni pour mon cul, ni pour mes rides. Neurostimulation, et je vous la fais courte. Quand t'es en errance médicale, le soulagement, c'est le Graal. Tu sais bien que ça soigne pas, mais une pause, c'est toujours ça. Ton corps est un laboratoire et toi, tu t'accroches à l'espoir. Tu gobes tout plein de produits en évitant les courts-circuits. Le médoc est un pansement qui nous ment trop souvent. Ces drogues étaient mes amies. Elles se transforment en ennemies quand les effets secondaires m'ont mis plus bas que terre. Acné, diarrhée, nausée, dépression, prise de poids, vomissement, sécheresse buccale, ballonnement, somnolence, saute d'humeur, brûlure d'estomac, allergie, perte de mémoire, démangeaison, troubles cognitifs. Ah ! Et le deuxième s'appelle « C'est dans ta tête ». On me dit « C'est dans ta tête », alors je pars dans une quête. Il y a tellement de thérapeutes, je me retrouve face à une meute. Ils me font tous les yeux doux, en voudrait-il à mes sous ? Arrête donc ta parano, ils veulent juste soigner tes maux. C'est pas toujours facile, car ça vient tirer des fils qui te mettent dans une souffrance et parfois créer une béance. Salut Mélanie, comment tu vas ? J'ai toujours mes problèmes de santé, mais on fait aller. Ah, justement, j'ai pensé à toi. Tu devrais essayer de faire une monodiète aux carottes. Il paraît que ça peut soigner de toutes les maladies, même les plus coriaces. Et puis ça donne bonne mine. Tu veux que je te donne le contact d'un coach ? Oui, pourquoi pas, au point où j'en suis. J'en ai eu des pratiques cheloues, j'ai découvert des univers un peu fous. Chamanisme, massage, hutte de sudation, communication avec les esprits, champignons, tambours, sacrifice d'animaux, ayahuasca. J'ai même bu mon urine sans avoir meilleure mine. J'ai jonglé avec tout ça en me disant pourquoi pas. J'ai voulu croire en la magie et mettre un brin de folie dans ma quête de guérison en oubliant la dépression. J'ai parfois eu beaucoup d'espoir, mais surtout des gros déboires et un sentiment incontrôlé que les factures étaient salées. Hey, ça faisait longtemps, comment ça va ? Bah, c'est dur en ce moment, j'ai des douleurs très fortes. J'ai ce qu'il te faut, il paraît que la tante de la voisine de ma mère a soigné ses migraines en sautant sur un pied plusieurs fois par jour et en récitant des mantras avec les yeux bandés. Tu devrais essayer. Hein, tu crois ? Tu sais, j'ai déjà essayé plusieurs trucs, mais merci pour l'info. On me dit c'est dans ta tête, alors je me sens vite bête de ne pas trouver comment me sortir de l'isolement. Je fais toutes sortes de thérapies sans m'offrir de répit pour comprendre enfin les liens qui, dans ma vie, créent des freins. Hypnose, sophrologie, méditation, psychanalyse, cristallothérapie, relaxation, iridologie, réflexologie, acupuncture, kinésiologie, chiropraxie, manupuncture, ostéopathie, constellation familiale, hormonothérapie, bains dérivatifs et j'en passe. À mesure que je me connaissais mieux, tout autour de moi devenait boueux. Ma maladie n'évoluait pas, mais je souffrais tout bas d'une culpabilité énorme qui envahissait toute ma forme. Je n'avais toujours pas de cause ni aucune pause dans ces douleurs insupportables, de plus en plus ingérables. Tiens, bonjour Mel, il faut absolument que je te donne le numéro d'un énergéticien. Je sais pas exactement comment il s'y prend, mais il paraît qu'il a soigné plusieurs personnes désespérées et qu'il est super chouette, tu devrais tenter. Oh, j'en ai un peu marre de faire des essais, tu sais, mais je prends le numéro, je verrai bien. Je sais que ça part d'une bonne intention de m'aider à trouver des solutions, mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'à chaque fois, ça me plonge dans l'espoir et que l'échec me fait croire que je ne sais pas recevoir. Salut Mélanie, ça va ? Très bien. Et toi ?
Tu as mal au genou ? Tu sais, j'ai lu que parfois les douleurs au genou sont le signe d'un souci dans ton lien avec le monde extérieur, ton rapport du jeu au nous.
Mais c'est super intéressant ça, Martin Jésus. Tu continues vraiment d'éclairer l'humanité avec tes connaissances fondamentales sur notre fonctionnement psychique et physique, Martin Jésus. Vraiment, que ferait-on sans toi ? Tu ne veux pas écrire un livre, Martin Jésus. Tu pourrais offrir à l'univers ton explication, ton interprétation des inflammations, des maladies, je ne sais pas moi, de la mort tout simplement. Mais oui, grâce à toi, enfin, on aurait du sens là où on en manque tant. Qu'est-ce qu'on serait rassuré sans toi, non, avec toi, Martin Jésus. Je vois déjà la gloire qu'emporterait ton œuvre. Imagine, Martin Jésus, tu y décortiquerais le langage de nos articulations. Vous avez mal au coude ? Coude égale coup fois deux. Avoir deux coups. On parle ici de gémellité. Vous avez un problème avec votre sœur ou votre frère ? Bon, si vous n'avez pas de sœur ou de frère, ça doit être plus généralement dans votre lien au monde extérieur. Mais voilà, Martin Jésus, tu as résolu le mystère du genou et du coude. Qu'en sera-t-il du menton et de la clavicule ? C'est palpitant. Il est certain que ton livre parlerait à beaucoup de monde, Martin Jésus. Et avec les sous que tu gagnerais, tu pourrais autofinancer ta propre recherche, Martin Jésus, pour continuer à nous abreuver de tes précieux savoirs. Mais qu'est-ce que tu fais encore là ? Fonce, Martin Jésus, fonce !
La comparaison. T'es super forte. Je t'admire de réussir à t'écouter et respecter tes limites. C'est la version positive de la comparaison, quand elle est alliée au jugement positif. Je sais pas comment le prendre. Pour moi, j'ai pas le choix. À force d'expérience, je sais ce qui va me coûter le plus cher. Alors oui, je vais me coucher, je bois du sirop à l'eau et je renonce à des activités. Moi aussi, je suis crevé. Moi aussi, j'ai chopé la crève. Je suis resté 3 jours cloué au lit. C'était intense. Non, c'est pas pareil. Ce que tu décris, ça s'appelle la vie. Ça s'appelle ma vie d'avant. Avec des contretemps, des moments où tu pousses tes limites parce que tu t'amuses, parce que tu as fait des choix. Moi, j'ai rien choisi. Ma santé, je la subis. Au mieux, je deal avec. C'est permanent. Toute mon existence est millimétrée, mon énergie calculée, mon emploi du temps rythmé par les rendez-vous, les traitements, les effets secondaires, la peur de la rechute. J'aimerais être fatigué parce que j'ai fait la fête. J'aime être fatigué parce que j'ai fait la fête. Mais ma fatigue, mes douleurs ne viennent pas du même endroit que toi. Ah mais tu bosses que à temps partiel. Tu devrais sortir, te bouger, ça te ferait du bien. La comparaison avec jugement négatif. Je sais ce que je peux faire et ne pas faire. T'inquiète, j'ai tout testé, pesé, calculé, compté depuis longtemps. Ce dont j'ai besoin, c'est de ta compréhension parfois de ton aide, mais pas de ton avis. Des avis, j'en ai bien assez de la part des 7 médecins qui me suivent. Je ne te souhaite pas de comprendre ce que ça fait de vivre dans mon corps tous les jours et d'entendre ce genre de choses tous les jours aussi. Je n'ai jamais autant eu envie de bosser, de marcher, de profiter. La vie sous la menace de la mort, ça m'a donné une immense motivation à vivre le mieux possible. Me prendre pour une feignasse, c'est insulter cet élan. Notre rapport au temps n'est pas le même non plus. Quand tu annules un rendez-vous, que ce soit un café ou une semaine de taf, parce que tu en as trop fait, parce que c'était difficile d'anticiper, oui, je peux comprendre. Mais comprends que la gestion de mon temps et de mon énergie est un jeu d'équilibre complexe, permanent et contraint. Je m'étais gardé du jus pour te voir, j'ai organisé ma semaine, mon mois, mon année même, en fonction de mes capacités, mes priorités et mes envies. Alors oui, j'aimerais éviter les frustrations évitables. Si nos capacités ne sont pas comparables, nos frustrations ne le sont pas non plus. Je n'ai toujours pas la flexibilité pour décaler à plus tard, ni la possibilité de voir au jour le jour ou à la dernière minute. Mes principales contraintes sont physiques ou médicales. Et puis il y a les comparaisons que nous on fait quand on vous entend, avec notre vie d'avant, avec vos vies bien remplies et vos problèmes qui semblent parfois si futiles. J'ai peur de mon aigreur. Elle exacerbe toutes mes différences. Je supporte de moins en moins de ne pas trouver d'habits à ma taille alors que n'importe quel fripe ou magasin vous habille. Parce que je veux éviter toute douleur d'un pantalon trop serré, qui serait inutile. Je supporte de moins en moins les problèmes de cœur de celles et ceux pour qui 3 mois de célibat, c'est long. Parce que mon intimité est encore plus compliquée à partager avec des cicatrices, des douleurs, de la sécheresse vaginale à exposer. Je supporte de moins en moins bien les addictions de mes amis, parce que ma sobriété me ramène encore et toujours à ce qui est empêché. J'essaye de ne pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais comme vous, j'ai un peu du mal.
On a dit à mon corps, sors de là. On a dit à mon corps, vas-y, encore un effort. On a dit à mon corps, crie, respire, calme-toi. On a dit à mon corps, ouvre les yeux, déploie les jambes, bouge les doigts. On a dit à mon corps, dors, chie, mange, marche, assieds-toi, tire la langue, prends, tiens, pose, tends, mets tes chaussures, regarde, ne regarde pas, donne, attends, tais-toi, lâche, lâche les cheveux de ton frère, lâche, rends, amène, bois, crache ça tout de suite, tu vas t'étouffer, dis maman, lève-toi, lève-toi, allez, allez, lève-toi. On a dit à mon corps de se lever, mais il est tombé. Il est tombé du lit quand il avait 4 ans, c'est la maladie qui lui a fait un croche-patte du haut de la mezzanine. Il a atterri tout en bas. On lui a dit « lève-toi », il ne pouvait plus. On lui a dit « allez, marche », il ne pouvait plus. On lui a dit « cours », il a dit « mais tu te fous de ma gueule ?» On lui a dit « mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu tombes ?» Et il a essayé de répondre avec ses mots à lui. Il a essayé de dire pourquoi, mais on voulait le nom de la maladie. Mais lui, il connaissait pas le nom de la maladie. Alors on l'a pas écouté. Et quand personne ne l'écoute, ça l'énerve. Mon corps, il s'est beaucoup énervé. Il a tapé un peu partout, il est devenu rouge, il s'est mis en boule, il a hurlé, il a pété toute la vaisselle. Il s'est mis en mode autodestruction. Je lui ai dit, arrête de t'autodétruire, pourquoi tu veux pas te tenir tranquille et faire les choses comme tout le monde ? Je lui ai dit, j'en peux plus de toi. Je lui ai dit, je te déteste et je rêve de changer de corps. Je lui ai dit, des atrocités. Regarde-toi, t'es ridicule, fatigué, mais t'as que ça à la bouche, fatigué. Plus vite, va plus vite, bordel, tu m'épuises. Je l'ai trahi. Maintes fois, je l'ai donné en pâture au redresseur en prétendant qu'il était incompréhensible. Mais mon corps est vaillant. Il ne s'est jamais tu. Peu à peu, j'essaie de comprendre ce qu'il dit. Ce qu'il écrit partout sur les murs depuis qu'il a 4 ans. Je déchiffre son vocabulaire, je détecte ses signes. Je ne le sortirai pas de là où il est tombé, non. Mais désormais, il ne sera plus seul tout en bas.
Now, it's not what it seems. I just can't start to say it was these evil days of pain and fear. Something was broke, It's not written on my face. You wouldn't know it. It's buried in my leather case. I got a memory of violence. It's not written on my skin. You couldn't see. It's a ripple in my grin, like the people of my kin. And now, it's not what it seems. I just can't start to say it was these evil days of pain and fear. Something was wrong, my mind hard like a knoll. Silence. The bruises and the sins don't wash away. It's not written in my name like a freckle on my skin.
Comment commencer à vous parler d'un passage d'un cœur sain, un cœur à soigner qui va peut-être mourir? Ah bon? Tu te croyais mortel? Ben oui, je n'avais pas vraiment réfléchi. Le titre de mon texte est ACAB, Al Cancer Arbatar. Les flics aussi, mais ce n'est pas le sujet. Je commence du début. Rhapsody, biopsie, boule mammo écho. On fait des petits prélèvements. Le jour des résultats, j'attends pas beaucoup de temps. Une salle d'attente. Je prends ça comme un bon signe. Eh ben non, voilà, ça ne passera pas exactement comme ça. La rabat-joie des services, Madame Zalta arrive. Venez dans notre salle, madame. Mettez-vous confortablement. Petit blabla des fausses bienveillances. Elle bascule vite dans un horizon glauque. Écoutez, madame, les résultats ne sont pas bons. On va pas tourner autour du pot. Vous avez le cancer. On peut rien savoir, mais sûrement il y aura de la chimio, de la radio, de l'hormono. Il faudra voir s'il y a des métastases, blablabla. Bref, Madame Zalda m'a plongé dans l'univers mortifère angoissant et nos rendez-vous de moins de 10 minutes. Ben, vous savez, dans ce monde, il n'y a ni le temps, ni le savoir-faire. Du coup, j'imagine ma mort, le monde sans moi, mes funérailles, mon fils orphanel. Les passerelles entre moi et la mort, ça me semble très courte. Je mange avec des copines. Je me sens un peu comme à la dernière buffe de Jésus au féminin, sauf que nous n'étions que quatre et je ne vois pas que je vais ressusciter. Le cancer. La prise d'alta, je vois des professionnels qui savent m'accompagner, me parler, m'expliquer. Notamment la chirurgienne plus douce et belle du monde, Madame Bernier. À Paulie-Calmette, le cancer, c'est pas exceptionnel. Là-bas, c'est la normalité. Et il y a un côté relativisant. Nous, les cancéros, on est tellement nombreuses et nombreux que les histoires secrètes disparaissent vite l'une après l'autre pendant la file d'attente. Même pas le temps de s'attacher au personnage plus sympathique. Psychothérapie. Une fois, un thérapeute me demande 3 mois après cancer. J'ai dit femme, amour et sexualité. Elle hallucine, elle m'a dit, ah bon, un peu original. Hein? Femme. Oh, si j'aime les femmes. Je dois tout aux femmes. Les femmes sont mes racines, mon passé, mon présent. Et boum, droit dans ma gueule, c'est la maladie des femmes qu'il m'arrive, le cancer du sein. C'est les femmes, mes ressources, mes copines, mes grand-mères, un personnage solide et chaleureux. Quelle chance les avoir à côté, quel soulagement, amour. En fait, je dois dire, je ne me suis jamais senti autant d'amour. Je ne me suis jamais donné autant d'amour, ni je ne me suis jamais assez vu, aimé, écouté. Et pareil autour de moi. Beaucoup des liens sont devenus d'un coup forts, essentiels, clairs. J'ai pu m'effondrer souvent et souvent il y a eu des gens pour moi, malgré les moments de solitude. Sexualité. Loin de l'imaginaire des forums cancer où c'est la merde plus absolue, j'ai beaucoup boosté mon cerveau avec des podcasts érotiques, entraîné mon cerveau avec des scripts sexuels les plus curieux. Et malgré l'hormonothérapie, j'ai voulu continuer à prendre du plaisir, m'exciter et jouir. Le cerveau, rappelez-vous, c'est le premier organe sexuel. Il faut le nourrir avec des activités gratuites et épanouissantes. Vu le prix du cancer, on a intérêt. Émotion. Du coup, j'alterne ma vie entre réflexion intime très profonde, télé-réalité et série Netflix. Je me sens triste, en colère, contente, luseuse, chanceuse. Tout au même moment, un peu comme la météo en Bretagne. Drama queen comme style de vie. Eh oui, le drama queen est devenu nécessaire à mon existence. Comme un coup de couteau provoque une sortie de sang, une parole en question de trop ou de moins génère des fleuves de larmes. Ça suffit que je vois quelqu'un que j'aime pour sentir la digue trop pleine qui commence à couler. Franchement, trop gênant. La respiration. Ce n'est plus vrai le slogan « plutôt crever que faire du yoga ». Je me jette tête en avant à tout type de cours qui m'apprend à maîtriser le souffle et les angoisses pour éliminer la barre au ventre. La responsabilisation. Ah, le cancer, mais tu as pris trop sur toi, tu dois parler, tu dois t'écouter, tu dois être trop traumatisé, tu portes les traumatismes de tes ancêtres. Tu devrais manger sans gluten, sans sucre, sans lactose, sans alcool, sans tout. Tu dois faire du sport, bien dormir, pas te stresser, manger du 100% bio. Même si c'est trop cher, reste en forme. Tu vois pas toutes les femmes toutes contentes qu'ils vont faire du footing pendant l'octobre rose. Si tu veux pas crever, fais quelques efforts. La majorité de nos cancers sont hormonodépendants et sous le réflexe de ce monde merdique. L'air, l'eau, la terre sont pollués. Nos cancers sont fortement en lien avec ça. Les remarques des docteurs. Ah, vous prenez que ça, bizarre. Normalement, on donne beaucoup plus avec un H2++. Mais votre sein est trop complexe et vous oubliez la mammographie à la maison. Mais je ne crois pas. Mais vous fumez un cœur. Vous êtes fait revenir le papillomavirus. Voilà, là, 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 et plein d'autres. La guerre. Tu dois gagner. Tu es courageuse. Si j'étais toi, je serais atterrée. Tu dois lutter. Tu vas gagner. Ah bon? Moi, je veux juste vivre. Changer le vocabulaire devient essentiel pour rester debout. Les autres, non, vraiment à toi, mais c'est pas juste. Merde, ma mère est morte de cancer au sein. Il y a des gens qu'elle te voit déjà morte. Cette maladie crée des angoisses, crises, attachements bizarres. Beaucoup de phrases pas demandées. Je ne sais pas comment faire, et les autres non plus. Les imaginaires. Alors, j'ai une boule, on me la lève, j'ai fait des soins, mais je me demande, c'est compliqué un soin ou c'est une vraie lourde maladie? Comment on hiérarchise les maladies? Il y a plein de maladies handicapantes et mortifères. Pourquoi, sous le cancer, il y a des tripes intérieures qui te serrent au cou? Morte, souffrance, douleur, sans chez vous, sans espoir, la fin de vie. Après un an, je suis là. Les imaginaires m'ont angoissé plus que la maladie. Changer, détruire, recommencer. L'anniversaire. Et voilà, j'ai un anniversaire en plus maintenant, l'anniversaire du cancer, où on fait le bilan, où on a des peurs et que ça revient, où on doit apprendre à vivre avec une angoisse en plus, au cas où on n'avait pas assez. Rêve. J'aimerais réaliser une image que j'ai piquée à Audre Lorde. Peut-on imaginer ce qui se passera si une armée de femmes opérées du sein faisait une descente sur le Congrès pour exiger l'interdiction des hormones saturées des graisses et cancérogènes dans l'alimentation animale? Moi, j'adorerais voir une horde de son sein, sans ovaire, sans utérus, nous, les mutilés du cancer, à prétendre de tout arrêter et de recommencer de zéro un autre monde.
Bouffer tout cru. Signal, stimuli, sensation, ressenti, suspicion, symptôme. Je n'entends rien, je ne vois rien. Aveuglé par la flamme dans la cheminée, je préfère aller couper du bois. Je n'ai pas le temps. Je me souviens et puis j'oublie. Et toi? Et sous ma peau? Et sous ta peau? Je me souviens et puis j'oublie. Et toi? 1995, Italie, à Vérone, première rencontre avec la côte du diable, ce vieil os. Est-ce le fossile d'un reptile marin ou une côte de baleine? Que sais-je? Ça pend, accroché sous la voûte d'un arche de la ville à l'entrée d'un passage. Mon oncle Sergio dit qu'il s'agit de la côte d'Adam, d'où Ève est née. Sa voix s'enroule dans mon oreille, le serpent de son désir, mon pouls solitaire. Mon sang qui afflue fait rougir mes joues. Je flippe. Sous ce porche, je reste longtemps les yeux levés, à espérer. La légende dit que lorsqu'une personne au cœur pur s'y arrête, l'os tombe. Peut-être qu'il va se le prendre sur la tête. J'attends. Mais rien ni personne n'interrompt sa main moite. Le soir, il masse mes deux pieds joints. Où est ma tante? Qui est ce diable? Et d'où vient cet os? Je ne suis pas Ève, mais une femme en série. On me l'a collé sur le dos. La peur et la fuite sont nos meilleures armes de défense et des radars intemporels. Bientôt, nous ferons corps ensemble, foule, contact, nos vulnérabilités au bout de nos fourches. Combien de fois l'ai-je rencontré, ce mal autru? Et vous? Schéma répétitif, scénario récursif. Je suis dans la spirale. Où est la diagonale? Nous sommes des millions à errer. D'ici, on va jusqu'à là-bas, on en sort, on y retourne, on en revient. Pas toujours entière. Mais sous la peau, tous s'en souviennent. Sous la peau, il y a ce monde endoplasmique, mon sang qui se répand et une empreinte qui creuse mon putain de verdict. Sous ma peau, tout se divise, se neutralise, se multiplie, me pluralise, me dédouble, me désaxe. Mes cellules bug, mutent, dégénèrent. Mes cellules m'attaquent, s'organisent, prennent leur autonomie. Nous, désir et prémonition avec un autre, le message est clair. Tu meurs dans l'utérus. Elles me font une clé de bras, tromperie de Fallope. Elles rejoignent la bête qui sommeille, mon anomalie, mon carcinome endométrioïde de type 2. parce qu'il y a plusieurs types, et bien sûr, comme d'autres, je suis tombé sur ce sale type. Mon crabe creuse sa galerie, recrute sa petite armée, il s'est fait son nid. Il vit retranché, invisible, caché, indolore, dans mon fourreau, doux et chaud. Il prend la place de quelqu'un d'autre, ce petit être qui ne viendra jamais. La blouse blanche a craché la sentence, lourde, comme un secret qui isole. Je coule. Système immunitaire en dépression, comment arrêter la prolifération? Course contre la mort. Les opérations sont lancées. Amputation. Harakiri, ras bien le dernier. Je suis sidéré et bientôt fragmenté. Je flambe, je crache du feu. Ça déborde de tous mes pores. J'ai l'impression que je pue. Mon seum me tient debout et je marche raide sur mes genoux. Il faut se battre, qu'ils disent. Mais je ne veux pas partir en guerre. Je suis déjà mon propre glaive. Émotion volcanique, j'ai peur, je prie et je maudis. Allongé dans mon lit, j'ai le vertige la nuit. Même mon ombre s'enfuit. Je suis l'arme et les balles, je suis chargé à bloc. Dans la rue et partout, je blablate, je déblatère. J'emmerde la terre entière, je mugis. Personne ne me répond, les folles effraient. Commandes qui ne répondent plus, dissociation, corps, tête, cœur, rupture de communication. Je voudrais prendre mes jambes à mon cou, mais je vais lui rendre coup pour coup. Sur ce terrain, pas de victoire. La délivrance passe par le scalpel. Je suis hanté par toutes ces conneries christiques et l'apocalypse. J'ai 44 ans et c'est la merde. Je vais finir complètement démembré. J'ai envie de me tirer, me barrer de ce corps sexisé, il m'a trahi. Invisible sans le ruban, je sors du rose, je me nymphose. Je hais ce dixième moi, je voudrais me le tatouer sur le bras. Maintenant, sous ma peau, il y a mon tombeau, vide de mes organes morts. La bête est bien morte. Mais les victimes ont peur longtemps, encore parano. Des fois, je cherche ces petits. Ce matin, dans mon ventre, ont éclos des violettes, vertes et jaunes, celles qui naissent entre les pierres. La lune a vieilli et mes règles me manquent. Je ne baigne plus dans mon sang. Deux fois victorieuse, je me blottis contre la vie et ses sombres printemps.
Je vais lire un texte d'un ami qui n'a pas pu venir ce soir, mais qui avait quand même envie d'y participer. C'est sur le devenir sourd, et son texte s'appelle « La peur ». Le premier mot qui vient, la première émotion, c'est la peur. La peur qui se ramifie pour se cacher dans plein de recoins, qui se manifeste de plein de façons et qui se décline sur plein d'intensités différentes. La peur, c'est par exemple la simple appréhension de devoir fournir un effort. J'entends moins bien les gens et je les comprends moins bien. Je fuis des conversations par peur de la fatigue qu'elles pourraient provoquer. J'écourte et j'esquive. Je limite les contacts. Mais c'est pas moi ça. Moi, j'ai toujours été dans l'échange. On m'a souvent dit que j'étais une bonne oreille. Et c'est ça que j'aimais, rencontrer tout le monde et discuter avec n'importe qui. C'est ça qui constituait ma personnalité. On m'a toujours dit que je ne parlais pas très fort. Moi qui suis d'un caractère discret, qui adore les personnes discrètes, j'ai moins accès à elles. Des gens que je pense que j'apprécierais me sont inaccessibles. Je dois me contenter de messages clairs et directs parce que je me fatigue vite et que toute interaction me fatigue vite. Quelle place pour la finesse, pour les errances, pour toutes ces subtilités qui passent dans le déchet du verbal auquel je n'ai plus accès. J'en viens à me demander sur quoi se basent mes amitiés. Et ça me met en colère d'avoir l'air taciturne et taiseux, alors que c'est pas mon caractère. Et ça m'énerve d'être en colère parce que c'est pas moi. Je me sens contraint dans un corps qui se serait désolidarisé de son esprit. Je me sens pas bien dans un corps en colère. Moi qui adore l'ivresse, qui me suis construit dans l'ivresse, ça m'énerve d'être déjà fatigué alors que la soirée a à peine commencé. Et déjà, j'en suis au point où je réagis à retardement. Je dis « Ah oui, ça me fait penser à… » Et je me rends compte qu'en fait, tout le monde parle de ça depuis 5 minutes. Ça m'énerve parce que je me rends pas compte que des gens sont en train de parler ou qu'ils ne sont pas allés au bout de leur idée. Et comme je n'ai pas remarqué qu'ils étaient en train de parler, je leur coupe la parole alors que je ne supporte pas qu'on me coupe la parole. Je suis perdue dans les tours de parole. Dans qui dit quoi, qui pense quoi, mais je sais jamais quand les gens ont fini de parler parce que je comprends pas bien ce qu'ils disent. Et j'attends mon moment pour en placer une, qui sera forcément à contre-temps. La peur, c'est aussi la paranoïa qui monte quand je suis perdue dans une conversation. La dislocation entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui pénètre à l'intérieur. C'est me retrouver seule dans mon cerveau à essayer de grappiller, d'analyser et de décoder les indices qui me restent, quelques miettes, quelques sons que j'essaie de relier à des mots existants dans le stock de vocabulaire disponible. Ça demande une énergie de ouf. Moi aussi, je veux continuer à boire et à rire et à blaguer et à me laisser monter, mais au lieu de m'ouvrir et de m'étendre, je me concentre pour essayer de suivre ce qui se passe. Ça crispe. Alors se lâcher maintenant, c'est lâcher prise sur le monde qui m'entoure, et pour ça, j'ai développé une étonnante capacité de dissociation. Et j'éclate de colère, et je me répands, et je me vide d'un coup. Et je passe la colère sur les gens autour de moi, sur les gens que j'aime, alors qu'ils n'ont rien à voir avec toute cette histoire. Mais c'est pas moi, ça. Je ne suis pas un ballon qui explose, moi. Les gens que j'aime, j'ai envie de les aimer, j'ai pas envie de les engueuler. Et je ne veux pas qu'on me voie comme ça, qu'on voit ça de moi. Et je souffre de l'image que j'ai l'impression de renvoyer. Ce rabat-joie fatigué et ronchon qui comprend rien à ce qu'on raconte, qui est constamment à la masse et en retard d'un wagon et qui tape ses crises de temps en temps. Je ne veux pas être vue comme un enfant irritable et grognon. J'ai peur d'énerver et de fatiguer les gens qui m'entourent. J'ai peur de les dégoûter. La peur, c'est aussi l'angoisse de ce qui se prépare. Parce que l'effort demandé pour se concentrer sur le message reçu fait que, paradoxalement, on le retient moins bien. J'ai lu que ça créait de la confusion mentale et des troubles cognitifs. Et je sens sur moi ces conséquences-là. Et j'ai peur que les gens se vexent, que je ne me souvienne pas qu'ils m'ont livré des bouts de leur vie, ou que j'ai pas exactement compris la conclusion de toute cette conversation, ou que j'ai oublié le rendez-vous qu'on avait. Mais c'est pas que je tiens pas à eux. Et j'ai en fait plus peur des conséquences des problèmes de mémoire dans mon rapport aux autres que dans moi-même. J'ai peur de plus être quelqu'un sur qui on peut compter. Et j'ai peur de cette image que je renvoie. Je me sens contraint de me repenser, de réapprendre une autre manière d'être au monde. Et ça me fait pas envie. Je dois artificialiser ma personnalité, alors que j'en ai absolument pas envie. Je dois réorganiser mon caractère et ça, ça fait peur aussi. Il pleut et j'ai les pieds trempés. Mais en fait, c'est juste un petit nuage qui pisse sur moi tout seul. Vous, vous êtes là en t-shirt au soleil à fumer des pètes, en rigolant et en chuchotant, alors que moi, je dégouline et j'ai le bruit constant du tonnerre et du plic-ploc autour de moi. Ça m'énerve et ça me donne envie de crier comme un sourd contre vous. Qui déblatérerait des histoires que j'entends pas. Mais personne n'y est pour rien. Alors je devrais juste me calmer et faire un effort. Mais putain, des fois, j'ai pas envie de faire d'effort.
Une de mes expériences de la beauté dans la maladie, c'est l'expérience de la capacité qu'ont certains et certaines de nos proches à prendre soin de nous. Ça rebat les cartes. C'est beau les personnes qui nous croient, qui sont empathiques, qui sont attentifs, qui ne remettent jamais en question ce qu'on vit, qui ne pense pas savoir mieux. Il y a tellement d'amour dans cette présence calme, silencieuse, douce, patiente. Un amour qui ne m'est pas tant directement destiné, mais un amour qui est de l'ordre de l'humanité et d'une complicité. Voilà, c'est ça le mot, complicité. C'est sans doute la complicité qui fait toute la différence, se sentir du même côté du bateau. Les complices, c'est celles et ceux qui n'appréhendent pas la maladie comme ceux qui s'opposent à la vie, mais comme faisant partie de la vie. La maladie comme une invitation à faire l'humilité face à cette force qu'est la maladie dans la vie, comme une invitation à la douceur et au calme, un regard compréhensif, mais jamais apitoyé. J'ai lu dans les revendications des dévalideuses que parmi les comportements validistes, il y avait la survalorisation des proches aidants, comme si elles étaient des héroïnes d'être restées, de faire face et de faire avec nous. Je comprends cette critique qui pointe que ça devrait juste être la norme d'être là pour ses proches malades. Je comprends le risque qu'engendre la survalorisation. C'est le risque pour nous autres, les malades, de nous rendre redevables, comme si la relation devenait inégalitaire et que l'autre était bien gentil de rester et de s'occuper de nous. On sait bien qu'à ce jeu-là, les hommes sont bien plus valorisés que les femmes. D'autant plus que la plupart des hommes hétéros se font la malle quand leur compagne tombe malade. Les rares qui restent sont perçus comme exemplaires. Mais il y a des gens qui nous donnent l'impression que ça ne leur coûte pas d'être là pour nous, qu'ils passent de bons moments à prendre soin et à partager cette réalité-là avec nous. Il y a des gens qui ressemblent à des petites fées qui scintillent autour du canapé dans lequel on est allongé, qui respirent la douceur, le velours et la chaleur d'un feu de bois. L'année que j'ai passée en état séphère d'encéphalomyélite myalgique a été un des moments les plus difficiles de ma vie, et pourtant je n'ai jamais autant pensé que j'avais de la chance dans la vie. Bien sûr, c'est grâce à des conditions matérielles d'existence qui font que je fais partie des plus privilégiés de ce bas monde, mais c'est aussi grâce à ces êtres chers qui écoutent sans juger et qui semblent si bien comprendre, sans qu'on sache qu'est-ce qui a pu bien faire, que Yel ont ces compétences-là. Une chose est sûre, c'est pas grâce au patriarcat.
J'ai fait un texte qui s'appelle « J'accuse ». J'accuse France Travail qui devrait plutôt s'appeler « Force Travail ». J'accuse la RTM de l'absence d'ascenseur dans les stations de métro. J'accuse le Mistral. J'accuse les rampes qui facilitent l'accès mais qui se trouvent, vous voyez là-bas tout au bout. J'accuse tous les médecins. J'accuse tous les médecins sauf les exceptions. J'accuse la ville de Marseille de faire des pistes cyclables et d'oublier d'améliorer l'accessibilité pour les personnes malades et handicapées. J'accuse la région de ne pas donner la gratuité des transports aux personnes malades et handicapées. J'accuse. J'accuse les fabricants de béquilles parce que j'en peux plus du clic-clic. J'accuse la MDPH pour la lourdeur de son dossier à remplir, pour sa lourdeur tout court. Je l'accuse pour sa radinerie à pas octroyer la AAH. J'accuse les complotistes de comploter sur la maladie que j'ai. J'accuse l'État qui se félicite des 20 ans de la loi sur le handicap. J'accuse l'État qui se félicite des Jeux paralympiques et puis au même moment, à Montparnasse, les deux seuls ascenseurs de la gare sont en panne. J'accuse la Sécu de ne pas rembourser à 100% les fauteuils roulants, les déambulateurs, les béquilles. J'accuse. J'accuse tous les magasins et leurs petites marches à l'entrée. J'accuse tous les endroits dits camarades qui ont des marches, des chiottes trop étroites, des comptoirs trop hauts. J'accuse ces mêmes lieux de ne pas être ponctuels et ça fait que pendant ce temps-là, je perds des petites cuillères et que je dois partir avant le début de la présentation. J'accuse tous les endroits publics, accueillant du public, de ne pas avoir de quoi s'asseoir. Je pointe ici la gare, la sécu, la poste, l'espace public aussi, et puis les boulangeries. D'ailleurs, j'accuse les boulangeries de n'avoir que des trucs méga bons à manger que je peux pas manger. J'accuse le vélodrome de me demander un certificat médical pour mes béquilles à l'entrée, parce que vous voyez, vous pourriez les utiliser comme projectiles. J'accuse. J'accuse toutes les institutions et qu'elles aillent toutes se faire cuire le cul.
Tout ce que je dois faire pour simplement vivre.
normalement, me maintenir à flot. Je mène une guerre souterraine sans relâche. Je combats des dragons, je débusque les malins, pars dans les profondeurs abyssales de l'humanité, rampe sous les nuits, je tiens en joue les envahisseurs, sur le lit, j'attaque, je tranche, sous le lit, je tends les embuscades, j'attends accroupi dans mes tranchées pendant des semaines, nuit et jour, je me bats, je résiste, maintiens à distance, fais fuir. Elle est où ma médaille ? C'est injuste, tu trouves pas ? J'aurais aimé me concentrer sur autre chose, voilà, faire la fête, peindre ma chambre, faire une soupe. Nuit et jour, je suis en guerre, non pour guérir, non, ce n'est pas la maladie, qui sait elle d'ailleurs, que je combats férocement, mais ce sentiment d'inutilité, cette idée selon laquelle je vaux moins quand je fais moins, cette improductivité insupportable, et ce dans tous les milieux. Bah oui, c'est sûr, ça a plus de gueule de faire 10 000 trucs que de lutter au fond de son lit. On sort chaque matin victorieux, victorieuse d'une guerre invisible et sans ennemi. Elle est où notre médaille ?